France Inter, le 18-20.
Bienvenue à l'écoute d'Une semaine en France. Notre invité jusqu'à 19h, un homme qui va nous parler d'un art qui traverse les siècles. Les images, les décors, les lumières, les costumes, les sons des voix et des instruments, le jeu théâtral, c'est tout cela. L'art lyrique, Stéphane Lissner, le directeur général de l'Opéra de Paris, est notre invité. Au sommaire encore, le mix de la semaine, signé Céline Hila, les bonnes ondes de Sandrine Houdin, on réécoutera son reportage sur un jeu qui a beaucoup de succès à la campagne en ce moment, le Loto Bouze. 19h15, le téléphone sonne, les défis de la SNCF. Elle a à compter de ce jour un nouveau PDG, Jean-Pierre Farandou. Les relations avec les voyageurs, la rénovation du réseau, l'ouverture à la concurrence, les tensions sociales. Vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000, le 18-20 du vendredi. Émission réalisée par Marion Lelay avec Philippe Duclos, Patrick Henry, Charles Pélabon. Et émission préparée par Irène Menahem et Antoine Liffaut.
Pierre Veille. Une semaine en France.
Il a fondé en 1972, à 19 ans, un théâtre dans une petite salle dans le 7e arrondissement à Paris. Il a été directeur du Centre National d'Art Dramatique de Nice, co-directeur du Théâtre des Bouffes du Nord à Paris et du Théâtre de la Madeleine, directeur de l'Orchestre de Paris, patron du Théâtre du Châtelet, puis du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, avant de diriger le Festival de Vienne en Autriche, la Scala de Milan et enfin, depuis septembre 2014, il est directeur général de l'Opéra de Paris. Stéphane Lissner est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Quel CV. L'Opéra de Paris fête cette année ses 350 ans. Que s'est-il passé il y a 350 ans, Stéphane Lissner?
Il y a 350 ans, le roi Louis XIV décide de créer ce qu'on appelle l'Académie royale de musique, c'est-à-dire officialise d'une certaine manière la musique et la danse. Et l'histoire commence, bien sûr, au cours des années, pour les changements politiques. Le nom va changer jusqu'à aujourd'hui pour devenir l'Opéra de Paris. Les salles aussi vont changer. Mais c'est une histoire continue. Et l'histoire continue, c'est un fil rouge qui, au fond, est surtout celui de la danse et de la chorégraphie. Au fond, d'une certaine manière, ce sont les danseurs qui ont été les premiers participants à ce projet. Et d'ailleurs, on parle beaucoup en ce moment des problèmes de retraite. Et il faut savoir que le roi a inventé le système de la retraite. Et qu'au fond, la retraite à l'Opéra de Paris, c'est de fait la première retraite dans le monde. Car au fond, il s'est rendu compte que ces danseurs, passés un certain âge, n'étaient plus en mesure de danser. Et que donc, il fallait pouvoir les soutenir financièrement. C'est comme ça qu'est née la première caisse de retraite.
Et l'opéra, le chant?
Alors le chant, il est passé évidemment, comme toujours, par des cycles. Et au fond, le chant... Et l'institution passe par des cycles, et aussi toujours lié, on va le voir tout au long de cette émission, lié bien sûr aux différents gouvernements, lié à la politique, lié aussi à la mode. Et l'Opéra de Paris, Garnier par exemple, n'a pas, qui pourtant est un théâtre pas très ancien, puisque c'est la fin du 19e, même ce théâtre a connu des hauts et des bas déjà dans ces dernières décennies. Donc on sent bien que c'est fragile, c'est du spectacle vivant. Ça coûte cher, ça s'adresse à une certaine élite, et donc notre travail est de chercher la démocratisation et de trouver des moyens de faire venir des nouvelles générations.
On va en parler.
Et ce travail, je pense, il a commencé depuis maintenant 30 à 40 ans, et je pense qu'on est sur la bonne voie.
L'Opéra de Paris en 2019, de quoi s'agit-il? Deux salles, le Palais Garnier, 2100 places, Bastille, 2700 places, 1700 salariés, une centaine de métiers, 400 représentations par an, 900 000 spectateurs, un budget de 220 millions d'euros, dont 93 millions d'euros de subventions, des dotations de l'État, en baisse hein, de 10% depuis 10 ans. Stéphane Lissner, la soirée parfaite à l'Opéra, ça existe?
C'est très 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 rare. C'est très très rare parce que l'Opéra réunit bien sûr la musique et le théâtre, mais la musique c'est... une interprétation d'un chef d'orchestre, c'est un orchestre bien évidemment, ce sont des choristes, ce sont des chanteurs, certes avec une partition et à côté un metteur en scène qui lui a une page blanche devant lui, qui devra interpréter cet opéra, ce livret bien sûr, le texte. Mais lui aussi, il engage auprès de lui un dramaturge, un éclairagiste, un décorateur, un costumier. Et donc il va falloir que tout ça fonctionne ensemble et qu'il n'y ait pas la moindre imperfection. Donc vous voyez que c'est pratiquement perdu d'avance. Il faut donc essayer de réussir le plus possible de mettre ensemble toutes ces personnes. Il y a quand même, heureusement, à notre disposition, l'histoire nous l'a enseigné, les moyens de se donner les meilleures conditions pour tenter ce que j'appelle la perfection qui au fond n'existe pas.
Vous avez commencé avec le théâtre. C'est plus difficile de réussir un spectacle lyrique ou un spectacle théâtral ?
Oui, on pose souvent la question. J'ai tendance à dire que c'est plus difficile le lyrique que le dramatique. Et j'aime pas le dire, mais je le dis d'une façon presque un peu pragmatique, d'une certaine manière. À l'opéra, encore une fois, ce que je viens de décrire, c'est l'accumulation de tous ces métiers, de toutes ces personnalités, la relation au théâtre entre un metteur en scène avec ses acteurs et le pont qu'il traverse vers le public, il est assez direct. Nous, on passe par énormément de chemins différents.
Stéphane Lissner, directeur général de l'Opéra de Paris, êtes-vous présent sur les plateaux des répétitions et est-ce que vous intervenez ?
Oui, je suis présent sur les plateaux de répétition. C'est un peu plus compliqué quand on dirige l'Opéra de Paris, parce qu'on a les deux théâtres qui fonctionnent en même temps. Mais j'interviens, oui, ça m'arrive d'intervenir. Ça m'arrive même d'intervenir d'une façon assez claire.
C'est-à-dire
sur des choses qui ne me conviennent pas dans l'opéra. Ça peut être des rapports compliqués entre un chef et un metteur en scène. Ça peut être des rapports compliqués avec un metteur en scène sur certaines options qu'il a prises. Ça peut être aussi aujourd'hui l'introduction de la vidéo change beaucoup la nature du rapport que le directeur a avec le metteur en scène, parce que quand on vous propose un concept, j'accepte ce concept. À travers ce concept, j'ai bien sûr devant moi une maquette de décor et des costumes, mais je n'ai pas la vidéo. Or, l'introduction de la vidéo aujourd'hui change la nature, effectivement, peut changer radicalement la nature du spectacle. Et ça, c'est un nouveau problème qu'on a devant nous.
Une mise en scène qui va dans le mur, est-ce qu'on sent arriver la catastrophe ?
Alors, on sent quand ça va pas bien. Hein, par exemple, en ce moment, on répète le Prince Igor, on sent que ça va très très bien, vous voyez. Donc, on sent aussi quand ça va très très bien. Oui, on sent quand ça ne va pas très bien, et donc là, on essaye de rectifier. On a beaucoup de possibilités de rectifier pendant 6-7 semaines les répétitions. Mais parfois, on rectifie, mais on change pas radicalement le spectacle, parce que parfois, ça se présente pas bien.
Stéphane Lissner, que répondez-vous à ceux qui proclament l'opéra ? C'est trop cher, toujours plein, c'est long, c'est difficile à comprendre.
Alors, c'est beaucoup de questions, hein. Alors, c'est trop cher, oui. C'est trop cher, oui, parce que même si nous avons aujourd'hui, sur les 900 000 places que vous avez indiquées, nous avons à peu près 350 000 places à moins de 70 euros. Donc il y a quand même des places qui sont raisonnables. C'est toujours trop cher, mais raisonnable. Est-ce que c'est trop long, vous m'avez dit ? Bah non, il y a des opéras qui durent une heure, il y a des opéras de Wagner qui durent 4h30. C'est pas trop long. Ensuite, vous m'avez dit ?
C'est difficile à comprendre.
Non, c'est pas difficile à comprendre. Il y a des opéras qui sont très simples, j'irais même simplistes. Et puis, il y a des opéras dont les livrets sont des livrets très intéressants et qui intéressent beaucoup, en général, les nouvelles générations.
Faut-il être très concentré lorsqu'on va à l'opéra ?
Oui, il faut être concentré et généreux.
C'est-à-dire ?
Il faut être concentré parce que il y a énormément de choses qui se passent. Quand vous assistez à une pièce de théâtre, vous avez des acteurs qui parlent devant vous. Quand vous allez à l'opéra, vous avez de la musique, bon, vous avez un orchestre, vous avez des chanteurs qui interprètent bien évidemment le chant, mais vous avez maintenant aussi le surtitrage. Donc vous écoutez, vous regardez, vous lisez, et en plus maintenant on rajoute, comme je viens de vous le dire, de la vidéo. Donc il faut une concentration. Certaines. Il faut une concentration. Et il faut une générosité parce que l'opéra, c'est très très difficile. c'est très difficile à réaliser. Et donc, je pense qu'il faut aussi être assez généreux dans l'acceptation qu'on a de voir aujourd'hui une Traviata, une Bohème ou une Carmen qu'on a déjà vue, qu'on croit connaître, et de voir tout d'un coup une interprétation nouvelle. Et donc, la réaction par rapport à cette nouveauté, parfois, est une réaction qui peut être un peu brutale. Et c'est souvent, je pense, un peu par manque de générosité et d'acceptation de l'évolution de notre société, l'évolution du monde, l'évolution aussi de la théâtralité, parce que parfois les gens qui vont à l'opéra ne connaissent pas bien le théâtre et passent parfois un peu à côté de cette évolution théâtrale.
L'opéra, est-ce intimidant d'une certaine façon ?
Oui, c'est intimidant, mais l'opéra Bastille, d'une certaine manière, a un petit peu gommé cela, car beaucoup de gens ont eu beaucoup plus de facilité à passer les portes de l'Opéra Bastille que l'Opéra Garnier. Et je pense que ça a aidé en plus à ceux qui sont venus à Bastille ont pu ensuite aller à Garnier. Donc l'Opéra Bastille, de ce point de vue-là, est une grande réussite.
C'est un rendez-vous chaque vendredi dans Une semaine en France. Stéphane Lissner, on revient sur l'actualité de la semaine écoulée. C'est le mix de la semaine réalisé par Céline Hila. Écoutez. C'est un homme de 84 ans, ancien candidat du Front National aux élections départementales de 2015. Lundi, il ouvre le feu et blesse grièvement deux fidèles devant la mosquée de Bayonne. Après interrogatoire, le procureur de la République de la ville, Marc Marié, révèle les motivations du tireur.
Il explique son geste par sa volonté de venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris en affirmant que l'incendie de cet édifice a été provoqué par des membres de la communauté musulmane. L'ensemble de son audition interroge sur son état de santé psychique.
Pour les représentants de la communauté musulmane, il ne faut pas s'étonner qu'on en arrive à ces violences avec toutes les polémiques récentes sur le voile. La colère du recteur de la mosquée de Lyon, Kamel Kaptan.
Il faut peut-être aujourd'hui que les Français comprennent que ce qui se passe dans notre pays est grave. Les musulmans aujourd'hui ont peur. Moi, je demande au président de la République de prendre la communauté musulmane pour sa protection parce que nous sommes en train de vivre des moments qui rappellent des moments sombres de l'histoire de France.
Et mardi, Emmanuel Macron a condamné cette fusillade visant des fidèles musulmans à Bayonne.
Je veux avoir une pensée amicale et républicaine pour nos compatriotes gravement blessés à la mosquée de Bayonne. La République fait bloc autour d'eux, comme elle fait bloc autour de chacun de ses enfants, lorsque l'obscurantisme et l'intolérance réapparaissent.
Une fois n'est pas coutume, après ce qui s'est passé à Bayonne, Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe se sont retrouvés d'accord lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale.
La France sait que la liberté de conscience est la mère de toutes les libertés. La parole raciste contre les musulmans s'est déchaînée et délibérément elle aura été banalisée.
Vous avez raison, Monsieur le Président Mélenchon, nous devons faire très attention. Nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et qu'à chaque fois que l'on pointe telle ou telle confession, alors on appauvrit ce qu'est la République.
La naissance d'un géant de l'automobile avec la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, les deux groupes emploient ensemble 400 000 personnes, des fiançailles à environ 50 milliards de dollars. Satisfaction de Patrick Michel, secrétaire force ouvrière du comité de groupe Monde chez PSA.
Alors clairement, ça ouvre le marché américain, hein, où PSA est absent aujourd'hui. Et deuxièmement, ça permet aussi d'avoir une taille suffisamment importante face aux géants Toyota notamment et Volkswagen.
Les tensions sociales, l'hôpital en crise, 7 mois de grève des urgences, manifestation à Paris d'un collectif de médecins mardi pour protester contre le budget de la sécurité sociale adopté à l'Assemblée nationale.
Monsieur le ministre du budget, l'hôpital public a fait en 10 ans 8 milliards d'économies.
Ça fait 2 ans qu'on parle à Madame Buzyn et qu'on a bien compris qu'en fait c'est pas elle qui avait la main, c'est que l'argent est retenu ailleurs et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui à Bercy pour réclamer de rendre l'argent à l'hôpital.
L'hôpital public, c'est un navire en perdition dans la tempête. Donc ce qu'il nous faut, c'est des remorqueurs de haute mer. Si vous envoyez 2 Zodiacs, il ne va rien se passer et il va aller se crasher le bateau.
Une prime de 10 000 euros au bout de 5 ans de service en Seine-Saint-Denis pour les fonctionnaires, c'est une des mesures du plan en faveur de ce département annoncé par Édouard Philippe lors d'une visite à Bobigny. Réaction dubitative d'un enseignant des Lilas.
les primes les plus ambitieuses ne pourraient pas compenser la perte de pouvoir d'achat des enseignants depuis 30 ans. Ça commence par une question des salaires, pas tant des primes. Une chose à laquelle je pense, c'est le manque d'ambition des jeunes aussi. J'ai eu le plus grand démo à convaincre mes élèves qu'ils pouvaient tenter des classes prépa. Ils ont un peu intégré cette idée qu'en Seine-Saint-Denis, on ne peut pas se préparer à ci, on ne peut pas se préparer à autre chose.
Voilà l'actualité de la semaine résumée avec ce mix signé Céline Hilla. Stéphane Lissner, un commentaire, un fait qui vous a frappé dans l'actualité de cette semaine ?
Ouais, il y a beaucoup de commentaires à faire. Sur le premier commentaire, sur ce qui s'est passé avec la mosquée, moi je retiendrai simplement que c'est quand même un ancien candidat du Front National. Ensuite, sur l'hôpital, je pense que le service public actuellement en France est en danger. Je pense que c'est vrai pour l'hôpital, pour la santé, c'est vrai pour la recherche, c'est vrai pour la culture. Je pense que...
L'Opéra de Paris est en danger ?
L'Opéra de Paris n'est pas en danger. L'Opéra de Paris est un service public qui, aujourd'hui, doit trouver 60% de ressources propres et reçoit 40% de financement public. On peut continuer, mais si on continue, on va perdre l'exigence. Donc on va perdre notre position internationale. Et donc ça, c'est dangereux. Mais c'est vrai pour l'Opéra de Paris, c'est vrai pour d'autres, c'est vrai pour le Louvre, c'est vrai pour beaucoup d'autres grandes institutions culturelles. Donc oui, je suis assez inquiet sur ce qui se passe au niveau du service public.
Quand vous dites on va perdre, ça veut dire qu'on ne pourra plus monter de grands spectacles avec de grands metteurs en scène, avec de grands interprètes, parce que ça coûte beaucoup d'argent.
C'est pas seulement ça, c'est que si vous voulez, les grands arts, nous avons aujourd'hui la chance, tout le monde le reconnaît, nous avons aujourd'hui la chance, comme rarement l'Opéra de Paris durant ces dernières décennies, peut présenter les plus grands artistes internationaux, que ce soit les chanteurs, que ce soit des chefs d'orchestre ou que ce soit des metteurs en scène. Mais il ne faut pas penser que ces gens viennent là pour l'argent seulement, parce que le salaire de ces artistes, il est pratiquement le même dans toutes les grandes maisons d'opéra dans le monde, que ce soit au Met, à Covent Garden ou à la Scala de Milan. La question, c'est le projet artistique. L'artiste, il va aller dans l'endroit où il y a un véritable projet artistique avec une vraie exigence musicale et une vraie exigence théâtrale. C'est ça qui nous permet de les attirer de plus en plus. C'est pas seulement l'argent. Mais si vous n'avez pas un minimum de moyens et si vous devez vous adresser de plus en plus au privé, vous changez la nature du service public et par conséquent, vous mettez quand même l'établissement en danger.
On va parler de votre projet artistique. Stéphane Lissner, le directeur général de l'Opéra de Paris, est l'invité d'une semaine en France. C'est un plaisir de vous recevoir. L'opéra, selon Stéphane Lissner, est-ce seulement la jubilation vocale ? C'est une expression que vous utilisez souvent.
Oui. Ce que je veux dire, c'est que il y a différents publics et il y a différents types d'opéras. Il y a des opéras où effectivement on a à notre disposition une partition, on va dire, où la jubilation vocale peut s'exprimer, où parfois le livret est très faible, et donc c'est surtout la voix qui peut nous donner l'émotion de la représentation. Et puis on a des opéras où on mélange les deux. Parfois, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir cette extraordinaire musicalité vocale et en même temps d'avoir des livrets qui permettent à des metteurs en scène de relier d'une certaine manière la représentation à notre monde, à notre société. Et c'est ça qui permet aussi de renouveler les générations à l'opéra. C'est quand tout d'un coup on arrive à créer entre une œuvre et le public un lien entre le monde, entre ce que nous vivons, dans la société dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est évidemment pour moi beaucoup plus intéressant, simplement, que la jubilation vocale. Mais les spectateurs sont différents et chacun peut trouver à l'opéra ce qu'il souhaite.
L'opéra doit donc être en lien avec notre époque, notre monde de 2019. On l'a vu, par exemple, avec cette création, là, durant cette saison, la Traviata de Verdi, Violetta, au milieu des smartphones, de Twitter, d'Instagram, elle tweet Violetta, elle a des followers, c'est la Traviata 2.0 avec Pretty Yende, mise en scène de Simon Stone. Oh.
Stéphane Lissner, avec un tel spectacle, on attire de nouveaux publics à l'Opéra de Paris?
Ah oui, je pense que dans la continuité de la conversation qu'on vient d'avoir juste avant, je dirais que l'opéra doit être un lieu de débat. Je pense que ça, c'est fondamental. Un lieu de débat, ça ne veut pas dire provoquer ou chercher la polémique à tout va. Non. Un lieu de débat, c'est un lieu dans lequel plusieurs pensées peuvent s'affronter par rapport à une représentation. Il ne s'agit pas d'être moderne pour être moderne ou d'être classique pour être classique. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment nous pouvons, encore une fois, intéresser et regarder le monde dans lequel nous sommes par rapport à des œuvres qui ont parfois un siècle et parfois même plus, parce qu'elles sont elles-mêmes, elles détiennent elles-mêmes des sujets qui nous tiennent à cœur aujourd'hui. Hein, et nous l'avons vu avec la Traviata, nous l'avons vu d'une façon extraordinaire avec les Indes Galantes de Rameau, où effectivement des danseurs hip-hop dansaient magnifiquement bien sur cette musique de Rameau. Donc moi, ce qui m'intéresse à travers Simon Stone ou à travers Clément Cogitor, c'est d'inviter ces metteurs en scène là aujourd'hui qui nous entraînent dans leur monde, et dans leur monde ce sont des trentenaires.
Y a-t-il des idéologies dans l'opéra, dans l'art lyrique, avec d'éternels débats, avec toujours des mécontents, les conservateurs face à ceux qui veulent des créations, de l'innovation? C'est difficile d'innover?
Mais je dirais que c'est surtout les commentateurs qui sont les plus conservateurs, plus que le public d'une certaine manière. C'est ça qui me frappe beaucoup à travers ce que j'entends à la radio, ou ce que j'entends, ou ce que je lis souvent. Il y a beaucoup de conservatisme sur l'évolution. Au fond, on nous demande toujours de faire évoluer notre art, et l'opéra en particulier, ou le concert. Et puis souvent, quand on tente des choses, il y a souvent de la part de ceux qui écrivent ou qui commentent, il y a souvent un peu de manque d'humilité, un peu de manque de modestie par rapport à ce que nous essayons de faire. Et je pense que ceux qui peuvent être dans l'excès, ceux qui peuvent être, ce sont les artistes, mais les commentateurs, non. Les commentateurs devraient peut-être être un petit peu plus... Et le commentateur, il influence. Alors, il influence pas sur les remplissages de salles, Dieu merci, mais il peut influencer le spectateur, forcément. Donc, je vois plus de conservatisme du côté des commentateurs.
Le patrimoine, c'est lourd à porter dans l'art lyrique. Est-ce que ça peut freiner l'envie de création?
Ah non, c'est pas lourd. C'est magnifique. C'est magnifique. On a une centaine d'œuvres exceptionnelles et d'autres, et certaines qu'on découvre de plus en plus. C'était le cas avec la musique baroque. Le travail qu'a fait William Christie, ça a permis à une certaine époque en France de découvrir vraiment tout un pan de notre répertoire patrimonial français, et ça c'est extraordinaire, mais ça continue, on a joué de plus en plus un certain nombre de compositeurs du XXe siècle qu'on ne jouait pas beaucoup, donc non, ça, c'est une grande richesse le patrimoine, ça n'empêche pas que nous avons la responsabilité dans le cadre du service public de faire créer des œuvres bien sûr et de passer des commandes à des compositeurs.
Et aussi de sortir du magasin d'antiquité.
Oui, de sortir de cette idée que nous serions plutôt muséales plus qu'une maison dans laquelle on pourrait chaque jour venir y découvrir quelque chose auquel on s'attend pas, être surpris. Encore une fois, le débat, il est là. J'ai besoin, moi, comme spectateur, de ressentir qu'on me fait une proposition dramaturgique qui va m'intéresser, qui va peut-être me faire réagir même. Mais j'ai besoin qu'on me propose quelque chose. Et aujourd'hui, quand j'entends parfois certains qui veulent encore des spectacles en costume d'époque, etc., je me dis, mais pourquoi faire? La reconstitution, ça n'apporte rien dans l'art.
Comment préparez-vous le programme d'une saison à l'Opéra de Paris? Alors, la réponse va être très longue.
C'est compliqué.
Essayez de me raconter ça façon assez brève. J'imagine long processus.
Oui, parce qu'il y a énormément de paramètres. Il y a le paramètre économique, il y a le paramètre artistique. Ça veut dire, évidemment, il y a un budget. Ensuite, il y a un paramètre artistique qui est très compliqué. Il y a un équilibre du répertoire, par exemple. C'est-à-dire, on a, bien évidemment, du 17e à aujourd'hui, des possibilités d'équilibre. On a un répertoire en termes aussi, bien évidemment, des pays qui sont bien sûr fondateurs, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne, la France en particulier. On a un équilibre à trouver en fonction des artistes, on a un équilibre ensuite à travers ces artistes, on a un équilibre à trouver par rapport à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire comment je veux que ce spectacle soit monté, dans quelle direction. Donc j'appelle telle personne, il n'est pas libre, donc je change d'œuvre. Et puis j'ai tel chanteur pour interpréter Carmen, elle n'est pas libre, je ne veux qu'elle, donc j'attends l'année d'après. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué, ça se fait environ 3 à 4 ans à l'avance, et c'est en même temps magnifique, et c'est un travail passionnant.
Quelle est la relation entre le directeur général de l'Opéra de Paris et le public ?
C'est un mariage qui évolue, et comme tous les mariages, on n'est pas tout à fait capable de savoir comment ça va évoluer. Mmh. Alors, en général, ça commence déjà avec un certain nombre d'a priori, parce que quand vous arrivez à l'Opéra de Paris, ce qui est mon cas, vous avez dirigé avant la Scala de Milan, vous avez dirigé avant le Châtelet, donc vous avez des gens qui sont très 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 heureux que j'arrive, et puis vous en avez d'autres qui ne sont pas du tout contents. Donc déjà, ça pose déjà un petit peu la situation. Et puis ensuite, ce mariage évolue en fonction évidemment des spectacles, etc. Mais honnêtement, je le dis avec franchise, je reçois beaucoup de lettres enthousiastes et je reçois également des lettres négatives. Mais en tout cas, la répartition est assez positive. Moi, ce que je remarque surtout, c'est la réaction du public. Si je prends les trois dernières productions que nous avons faites nouvelles, l'Énigme Macbeth, La Traviata et Les Indes Galantes, c'est trois spectacles qui, pendant toutes les représentations, ont fait des standing ovations et des publics de tout âge qui ont été enthousiastes. Donc ça, c'est quand même très encourageant.
Et là, pour vous, c'est un soulagement ?
Je sens dans la salle, ouais, au fur et à mesure de la représentation, s'il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Et moi, je souhaite évidemment que le public, encore une fois, réagisse. Encore une fois, c'est ça la beauté de la représentation et c'est ça le spectacle vivant.
Stéphane Lister, on se retrouve dans quelques minutes. Les musiques qu'on aime sur France Inter, un extrait du dernier album d'Alain Souchon, Am 50s.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris sur la plage du Crotoy en face de Saint-Valery. Les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage derrière. I'm 50s. I'm 50s. Dans le radio là, André Verschuren, les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route ravie en arrond de plein ciel qui rentre à Paris. I'm 50s. I'm 50s. Rue Campagne Première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dôme. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, y a un coiffeur. I'm 50. transfluide vedette abeille, Patrick, Peugeot 203, Monique Alain Françoise, 4 chevaux Renault, Roger, Jacqueline, René, Micheline. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise.
I'm 50s, Alain Souchon, Stéphane Lissner, directeur général de l'Opéra de Paris. Lorsque vous n'écoutez pas de l'art lyrique de l'opéra chez vous, vous écoutez d'autres musiques, par exemple Souchon ou d'autres artistes qu'on entend beaucoup sur France Inter?
Oui, j'écoute d'autres musiques. Bon, j'ai eu la chance de travailler avec Barbara quand je dirigeais le Châtelet, donc voilà, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée, qui est vraiment que je réécoute souvent. Mais oui, j'ai un fils qui est rocker, donc il m'a fait découvrir un rocker des années 60. Nick Drake, ouais. Que j'ai découvert, je ne connaissais pas, j'ai trouvé original, et voilà. Et puis j'aime beaucoup aussi la musique de mon fils, Octave Lissner, donc voilà. Mais ce concert qu'il a fait pour lui, ça m'a étonné, et j'ai trouvé, voilà, qu'il y a dans les années 60 des compositeurs qu'on ne connaît pas, des rockers qu'on ne connaît pas.
Mmh. J'ai appris que vous aviez vu James Brown à l'Olympia en 1967.
Oui, alors j'aurais pu choisir
figure
aussi...
Figure historique du rhythm and blues
nord-américain. Oui, alors j'aurais pu choisir pratiquement... Voilà, j'aurais pu choisir Fa ou choisir le théâtre, parce qu'en vérité, c'est quasiment la même année où j'ai découvert L'Amante anglaise de Marguerite Duras au Théâtre National de Chaillot et James Brown à l'Olympia. Voilà, oui, j'ai eu une passion pour James Brown, mais que j'ai toujours. Et j'écoute encore aujourd'hui. Oui, c'est un...
Mais avez-vous réalisé que le théâtre, l'art lyrique serait toute votre vie?
Alors, j'ai réalisé... d'abord, j'ai été à un concert quand j'étais assez jeune. J'ai écouté Samson François dans un petit festival sur les hauteurs de Saint-Tropez. Qui jouait dans ce petit festival. C'était la seconde épouse de mon père qui m'avait emmené là, qui m'a d'ailleurs ensuite emmené voir également l'amante anglaise de Marguerite Duras. Et j'ai pas compris ce que j'allais faire, mais j'ai compris que j'allais soutenir, m'occuper, aimer les artistes. Et au fond, ma vie, c'est pas savoir seulement si j'aime plus le théâtre, la musique, l'opéra, etc. J'aurais consacré ma vie aux artistes, finalement. Et c'est ça qui est mon moteur.
C'est difficile, c'est angoissant de gérer les artistes.
Oui, c'est très difficile.
Avec leur sensibilité.
Oui, c'est très difficile, mais
vous savez.
Mais ils sont magnifiques, ils sont parfois fragiles, ils sont parfois très difficiles, mais je me suis rendu compte au fil des années que ce qui me plaisait vraiment, c'était ça. Et donc, finalement, être directeur de théâtre, c'était assez naturel pour moi, puisque ça me permettait, encore une fois, d'être auprès d'eux et surtout de les soutenir, de les accompagner.
Un directeur d'opéra comme vous, Stéphane Lissner, avec la carrière que vous avez derrière vous, finit-on par être comme blasé par les splendeurs de l'art lyrique ? Quand vous entendez Dinara Alieva dans Madame Butterfly, et en ce moment, à Bastille, êtes-vous blasé ou encore toujours touché par le chant?
Ah non, je suis touché, mais il y a des opéras que j'aime vraiment et d'autres que je n'aime pas beaucoup. Voilà, j'ai eu le tort parfois de le dire d'ailleurs, parce qu'on pense que, voilà, quand je dis que j'aime un opéra plus qu'un autre du même compositeur, on pense que je n'aime pas le compositeur, mais c'est pas le cas. Il y a des opéras que vraiment qui m'enthousiasment et qui me permettent d'avoir ce plaisir de l'écoute. Oui, bien sûr, absolument. Oui, je voilà. Mais il y a des compositeurs aussi que j'aime intégralement, donc que j'écoute plus volontiers.
Est-ce qu'il y a toujours le risque de l'accident vocal d'une représentation d'un opéra?
Ça vient d'arriver il y a quelques jours dans la première, au cours de la première de Don Carlo, où Roberto Alagna, immense artiste, a eu à la fin du premier acte un problème. Il a dû s'arrêter et n'a pas pu continuer. Et il vient de faire une troisième représentation extraordinaire. Donc oui, un artiste, c'est un être humain qui peut avoir à tout moment une défaillance. Et malheureusement, oui, ça peut arriver. Mais dans le cas de Roberto, il a eu cette défaillance, mais il a fini de faire des représentations absolument extraordinaires. Donc ce sont des défaillances qui peuvent arriver.
Est-ce que l'art lyrique se développe bien dans le monde, sur la planète, en 2019?
Oui, alors il y a énormément d'opéras qui sont construits, comme vous le savez. Les Chinois ont offert aux Algériens un opéra. Dans les pays asiatiques, il y a énormément d'opéras. Pour l'instant, l'opéra se développe, pour l'instant, je dirais, plus d'une façon architecturale que d'une façon artistique, parce que pour l'instant, ça ne se développe pas encore très bien d'un point de vue de la programmation et d'un point de vue de l'utilisation. Ce regard de ces pays-là par rapport à la musique occidentale, peut-être les Japonais sont très en avance par rapport aux autres. Ils ont depuis les années 50-60 invité des grands opéras à venir là-bas et ça marche extrêmement bien. Pour les autres pays, que ce soit dans les pays arabes ou que ce soit dans d'autres pays, c'est le début. C'est le début de quelque chose, mais on est encore loin et on est assez fasciné par exemple à Shanghai. Vous avez une construction, vous avez un théâtre, un opéra très important, et on est en train d'en construire à côté, à moins de 10 km, on en construit un encore plus important. Donc ça se développe beaucoup.
Il y a une fascination pour l'art lyrique, il y a une demande si on construit tous ces bâtiments.
Oui, il y a une demande.
Bâtiments.
Est-ce qu'on va réussir à mêler ces deux cultures? Est-ce qu'on va réussir à mêler ces deux cultures de manière à ce que les artistes chinois, par exemple, et les artistes du monde occidental puissent effectivement travailler ensemble et créer ensemble et inventer quelque chose de nouveau ensemble? C'est trop tôt pour le dire.
Comme tous les vendredis dans Une semaine en France, Stéphane Lissner, voici les bonnes ondes de Sandrine Houdin, une actualité souriante, surprenante, inattendue. Sandrine est en congé, mais elle reviendra la semaine prochaine, bien sûr. Alors on va réécouter un reportage sur un jeu qui a beaucoup de succès dans nos campagnes. Ça s'appelle le Loto Bouze. C'est parti de Bretagne, ce jeu a déjà gagné la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est et aussi récemment les Hautes-Alpes. Alors le principe, on choisit un pré, on le quadrille comme un damier. Chaque case a son numéro. Vous pariez sur un numéro, exemple 1447. On lâche une vache. Et si cette vache se soulage sur le 1447, eh bien c'est gagné. Voilà, vous savez tout. Direction Semoussi, un village de 250 habitants près de Maubeuge. Là-bas, le Lotobouze est une attraction. Le reportage de Sandrine Houdin.
Lady laborieuse, libellule, hiérarchie, leur seule mission... être tranquillement et ne surtout pas se préoccuper de ces bipèdes agglutinés sur les barrières et qui n'en ont que pour leur croupe.
Coucou Mireille! Viens un peu Mireille! Viens!
Je crois pas qu'elle s'appelle Mireille. Hein.
Raymond! Viens Raymond! 15, 22, 23! Viens!
Chacun sa méthode.
Viens!
Allez, vers le 15!
C'est quoi ton numéro?
H12.
T'avais déjà vu ça, toi?
Non, pas avant qu'on était venu ici.
Nous venons de Lille.
Alors
c'est rigolo, c'est un peu surréaliste. L'autobus, peut-être d'autant plus quand on est plutôt citadin comme nous et qu'on se retrouve dans une ambiance, au final, qu'on connaît pas.
T'as envie qu'elle vienne par ici, c'est ça?
Bah oui, elle va peut-être bouser.
Ça, c'est sûr, mais quand, Christiane, de l'organisation?
Ça peut durer longtemps.
Il est 2 heures.
Eh ben, ça dépend de la vache. L'année dernière, jusqu'à 5 heures que ça a duré.
Le premier lot, c'est pas mal quand même.
Ouais, 1 500 €. Ouais. Bah oui, c'est même bien pour une bouse, ouais.
Alors nous attendons toujours les bouses des deux premières vaches.
Vous avez quel numéro, madame?
Moi, j'ai pas de numéro. Tout était réservé déjà. Tout était vendu.
On vient de Belgique spécialement et tout est vendu.
Tout est vendu.
Ah, vous êtes déçus alors?
Ah oui.
Pour l'instant, pas de bouse à l'horizon.
Vous trouvez ça comment, l'autobus?
C'est extraordinaire.
Qu'est-ce que vous trouvez extraordinaire?
Eh bien, simplement le fait d'y penser déjà.
C'est monsieur le maire, il y a 4 ans.
Au début, ça a laissé perplexe sur le principe. Miser de l'argent sur des bouses de vaches, ça a fait plutôt rire Bob pas mal de monde. Puis après, quand on leur explique la finalité, le nombre de tickets vendus et la finalité du truc, ils se disent finalement c'est pas con. On a pu refaire l'église intérieure et puis une partie de la toiture.
Carrément, la bouse a servi à l'église?
Oui, la bouse a servi à l'église. C'est drôle, mais c'est comme ça. Les grands moments de rigolade permettent également de faire de grands travaux.
Parce que mine de rien, combien de tickets vendus?
2440 chaque année.
Donc on est dans la case F.
Ah, première grosse commission.
1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Donc on est dans la case X12.
Voici l'huissier de justice. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Faut croire que si. Explication maître Delval.
La vache, elle fait sa bouse. Donc avec un peu de chance, la bouse, elle tombe net sur une case. Et là, c'est parfait. Par contre, le risque, c'est que la vache, elle fait là où elle peut. Hein. Donc, on mesure là où tombe la plus grosse partie de la bouse sur la case.
Est-ce que vous auriez imaginé, lors de vos études, devoir un jour mesurer des bouses?
Non, du tout. Mais c'est sympa.
Celui qui a le ticket X12 vient de gagner 300 euros. X12.
Aimé sort de ses poches une dizaine de tickets, c'est devenu un inconditionnel des lotobouses.
On est parti 8 jours en Corse, grâce à une merde de vache. Et si elle recommence, on recommencera.
Là, si la bouse fait sur votre numéro, vous partez où?
On retourne en Corse, mais en Corse du Sud.
Merci la bouse.
Et derrière à la buvette, pour l'instant, rien du tout, mais aucun regret.
Ça fait rire, c'est tout. Vous trouvez que c'est marrant autour, tout ce qui se passe? Pour une fois qu'on n'est pas dans la merde et qu'on s'amuse.
La case qui gagnera le lot de 1500 euros. Elle se situe sur la feuille Q du plan.
Et voilà le grand gagnant.
Très heureux. Je suis fils de marchand de bestiaux et gagner grâce à une bouse, c'est marrant.
Alors vous allez en faire quoi? Vous partez où?
Oh, au soleil. Au soleil cet hiver.
Voilà, les bonnes ondes de Sandrine Houdin près de Maubeuge. Il s'en passe des choses dans les campagnes françaises. Stéphane Lister, directeur général de l'Opéra de Paris. Où en est la relation entre l'opéra et les spectateurs par le digital? Cette fameuse troisième scène sur le net.
Alors, quand je suis arrivé en 2014, on a vraiment pris un nouveau virage numérique. D'abord, on a totalement refait notre site internet et effectivement, on a créé la troisième scène. La troisième scène aujourd'hui, c'est à peu près 65 films que l'on peut voir gratuitement en ligne. Au fond, c'est un Netflix gratuit de courts-métrages qu'on peut voir en allant sur bien sûr le site de l'Opéra de Paris. L'idée, c'était de faire rencontrer des philosophes, des écrivains, des cinéastes, des peintres, etc., qui n'ont a priori pas de raison de travailler à l'Opéra de Paris, avec un public qui lui n'a pas non plus, c'est pas évident pour lui non plus d'aller à l'Opéra, en tout cas il n'y pense pas forcément. Donc on a voulu réunir ces deux entités, et aujourd'hui on a dépassé les 6 millions de vues, c'est un vrai grand succès. On a un film qui est en ligne depuis quelques jours autour de Degas, qui a été fait d'ailleurs au moment où l'Opéra de Paris, dans le cadre de ses 350 ans, a fait une collaboration avec le musée d'Orsay sur cette magnifique exposition de gars. Il y a un film qui vient de sortir. Donc, c'est l'idée aussi de ne pas être lié forcément à l'actualité, mais ça peut l'être. Et c'est aussi l'idée que ça peut toucher au-delà de l'opéra. Voilà. Le sujet, souvent, est lié à l'opéra, mais ce n'est pas obligatoire. Et à la danse, évidemment. Voilà. Ça, c'est très intéressant. On a été sélectionné, je crois, dans plus de 100 festivals, déjà. Donc, il y a cet enthousiasme, aujourd'hui, pour cette troisième scène. Et Les Indes Galantes est né d'ailleurs d'un film de Clément Cogitor qu'il a fait pour la troisième scène.
Stéphane Lissner, bientôt la fin de cette émission, le temps a passé très vite. Vous serez à la tête de l'Opéra de Paris jusqu'en 2021 et ensuite à la tête du Théâtre San Carlo de Naples où vous serez surintendant et directeur artistique. Vous avez déjà commencé la préparation de la saison 2021-23.
Oui, alors d'abord pour être bien précis, parce que je sais qu'il y a toujours des rumeurs, pour être bien précis, je suis à l'Opéra de Paris jusqu'au 1er août 2021.
Voilà. J'aurais fait un septennat
et j'ai pas l'intention de ne pas le faire. Premièrement. Deuxièmement, oui, je commence la saison 21-22, donc il n'y a pas en plus pour moi de problème, on va dire presque déontologique, parce que mes deux prochaines saisons sont totalement terminées pour l'Opéra de Paris, et donc j'attaque une voilà. Mais mon successeur, qui est déjà nommé, comme vous le savez, fait exactement la même chose, il prépare les saisons pour après mon départ pour l'Opéra de Paris.
Alexandre
Neff.
Voilà,
qui est allemand.
Stéphane Lissner, directeur général de l'Opéra de Paris, était notre invité ce soir. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Au programme à l'Opéra de Paris, à Bastille, Madame Butterfly, Puccini jusqu'au 13 novembre, Don Carlo de Verdi jusqu'au 23 novembre. Et puis, il y aura le Prince Igor du 25 novembre au 26 décembre, le Pirate de Bellini à Garnier, j'oublie rien, le Barbier de Séville de Rossini en janvier 2020, les Contes d'Hoffmann en janvier 2020, Don Giovanni de Mozart à Garnier en mars et avril, l'Or du Rhin, Wagner, vous y tenez beaucoup, à Bastille.
On n'en a pas parlé, mais effectivement, une nouvelle tétralogie va commencer à l'Opéra de Paris.
Merci Stéphane Lister d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.
Merci à vous.